Des zèbres dans l'église. Un podcast à haut potentiel.
Si vous êtes en train de nous écouter, c'est que vous avez fait un choix. Le choix de nous écouter, nous, plutôt que d'écouter autre chose. C'est pas toujours facile de faire le choix. Qu'est-ce que t'en penses, Réchis?
Je pense que ça peut être très difficile et ça peut être difficile de surtout sur deux versants.
Oui.
Dans un cas, c'est très difficile de faire un choix entre plusieurs possibilités parce que on a peur. On se dit, si je choisis une, je peux me tromper. Est-ce que je fais le bon choix? Et puis dans un autre cas, on peut dire, j'ai pas envie de choisir, je veux tout.
Ouais. Bah, déjà, si j'ai bien compris, toi, tu as choisi une seule femme.
J'ai
Donc, tu as
choisi une
renoncé à
seule
toutes les
femme.
autres.
C'est vrai.
Et donc, tu as dû faire le deuil de tous les autres.
J'ai dû faire le deuil d'une relation avec toutes les autres. Et j'ai dû faire aussi le choix, qui n'est pas un deuil nécessairement, le choix de respecter ces femmes, les autres, en tant que personne, personne désirable. Et ça peut se remarquer qu'elles sont désirables, sans pour autant faire comme si le choix existait encore et si je pouvais m'investir dans une relation avec elles. Je peux m'investir dans une relation amicale, mais quels que soient mes ressentis, mes pulsions, j'en resterai là parce que j'ai choisi de vivre mon côté pulsionnel avec mon épouse et c'est tout.
Super. Alors ça illustre un petit peu le sujet d'aujourd'hui, mais en fait, le sujet d'aujourd'hui, il vient en réponse à des questions que certains nous ont données et qu'on a regroupées sur ce sujet-là. Mais on n'était pas forcément dans les choix, comme je viens de parler là, d'un conjoint pour la vie, mais plutôt de qu'est-ce que je vais apprendre, quelle est la matière que je vais choisir, quelle est l'orientation que je vais choisir.
Oui, et même dans d'autres domaines, les zèbres sont des gens qui sont tout le temps en train d'apprendre, toute leur vie. C'est pas seulement une idée d'orientation, pour quelle carrière est-ce que je vais choisir. Déjà ça, choisir une carrière, c'est pas évident. Grosso modo, on estime aujourd'hui que les zèbres font environ 5 carrières dans une vie. Parce qu'il y a un moment, ah oui, ah oui.
J'ai compté, je les ai déjà dépassés.
Mais c'est tant mieux, parce que au moins comme ça tu t'ennuies pas. Mais on peut pas. Au bout d'un moment, on a fait le tour d'un sujet, de ce qu'on peut apporter dans cette activité et de ce que cette activité peut nous apporter. Et du coup, on passe à autre chose. Donc, même si je me garde en mémoire que quand je choisis une activité, une carrière, un ministère ou que sais-je. Je pourrais changer plus tard, même si j'ai ça en mémoire. Comment est-ce que je sais que je fais le bon choix pour ici et maintenant? C'est pas évident parce que, tu l'as dit par rapport à l'épouse, mais c'est valable dans tous les domaines. Choisir, c'est faire le deuil de beaucoup d'autres possibles.
Exactement.
Et du coup, certains ont tendance à ne pas faire de choix parce qu'ils veulent pas renoncer. Et puis il y a d'autres personnes qui vont plus loin parce que quand je dis je ne veux pas renoncer, je ne m'engage pas dans un choix. Mais par exemple, quand certains veulent découvrir un sujet, ils veulent tout savoir du sujet. C'est-à-dire, quelqu'un dans ma famille a attrapé un cancer du ménisque. J'ai envie de mieux connaître le sujet que les spécialistes du genou. Les traumatologues et les oncologues. J'ai envie de tout savoir. Mais comment je fais? Dans les commentaires et les questions que tu as reçues, il y a une personne qui disait, déjà enfant, je posais tellement de questions à mes parents qu'ils me renvoyaient vers l'encyclopédie, sauf que l'encyclopédie, j'avais l'impression qu'elle ne faisait que survoler les sujets. C'était un résumé et j'avais pas les détails. Et moi, j'en voulais plus. Et il y a un moment, où il faut admettre d'abord que même si on a une intelligence qui est au-dessus de la moyenne, et même si on est hypermnésique, on ne pourra jamais tout savoir sur un sujet. D'autant plus que les connaissances qu'on peut avoir à un moment donné, on sait que plus tard, elles seront dépassées, elles seront remises en question. Qu'avoir tout ce qui est sorti avec le télescope James Webb et d'un seul coup, les astrophysiciens sont obligés de réviser tous leurs modèles. J'entendais David Corbaz récemment qui disait, nous sommes à l'aube d'une révolution scientifique et la plupart de nos paradigmes vont devoir être reformulés. Eh ben oui. Donc, très bien, si j'arrive à savoir plein de choses sur un sujet aujourd'hui, demain, on va me dire, ah ben non, pour finir, c'est pas vrai. Une chose toute bête, je me souviens des débats quand j'étais étudiant à Vaux-sur-Seine en théologie et qu'on rencontrait les étudiants de la faculté de Paris-Arago, qui étaient, eux, plutôt libéraux et nous, on était classés évangéliques. Mais la théologie reste la théologie quand même. Mais n'empêche qu'il y avait un sujet qui était très, très marqué pour ceux qui recevaient la théorie historico-critique, c'était que le Pentateuque avait été formé par quatre grands courants qu'on classait JEDP. Ah. Et puis, bah alors mon privilège étant d'être un peu un transculturel du protestantisme, j'ai dû reprendre 2 ans d'études de théologie à la faculté de Montpellier, donc faculté luthéro-réformée, pour pouvoir intégrer l'Église réformée de France. Et à l'époque, j'ai eu une professeure d'Ancien Testament qui disait, on est bien obligé de reconnaître que J et E, ils sont morts, quoi. Ah, mais il y a des tas de gens qui se sont battus bec et ongles pour affirmer que c'était la seule façon de comprendre comment l'Ancien Testament s'était formé, et particulièrement le Pentateuque. Et puis maintenant, eh ben, on ne sait plus. Il y a des hypothèses multiples. On est face à de l'incertitude. Et du côté évangélique également d'ailleurs, parce que si on veut être très honnête, quand on lit le récit dans l'Exode, il est dit que Moïse a écrit un livre, un rouleau. Le Pentateuque, comme son nom l'indique, c'est 5 livres. Comment on est passé de 1 à 5?
La multiplication.
J'ai pas d'explication. Je retiens volontiers par l'histoire du texte, l'analyse, le décryptage, la façon dont c'est rédigé. Je retiens assez volontiers l'idée que l'édition finale du Pentateuque remonte à après le deuxième exil. L'édition finale, pas l'origine des textes. Et je me moque de savoir, quand je cherche la parole de Dieu pour moi, je me moque de savoir comment ça s'est fait. C'est aussi un peu ce qu'on appelle la seconde naïveté, mais c'est là ce qui pour moi est important. Je ne vais pas me battre avec des personnes qui considèrent que le livre d'Ésaïe a été écrit par une seule personne, puis d'autres, il y en a qui disent deux, il y en a qui disent trois, il y en a qui disent quatre. Et quand je lis ce texte et que Dieu me parle dans le texte, je n'ai pas besoin de savoir qui est l'auteur. L'épître aux Hébreux, personne ne sait qui l'a écrite. Eh ben, excuse-moi, mais elle me parle de beaucoup de choses. Alors, je suis obligé d'accepter des incertitudes et je suis aussi obligé d'accepter, de la même façon, qu'il y a des choses qui me dépassent, il y a des choses qui sont trop grandes pour ma cervelle, que ce soit la mémoire ou l'intelligence, et je vais me contenter de ce qui est à ma portée, maintenant. Mais c'est pas facile parce que ça fait beaucoup de frustration.
Et alors, comment tu fais pour passer cette frustration? Parce qu'il y a quand même toujours, dans tous les cas, dans chaque choix, il y a une part de frustration. Comment
Oui.
la dépasser?
Alors, ça, c'est une hypothèse de Régis pure et dure.
Ok.
Donc, je la garde, c'est moi. Mais mon hypothèse, c'est quand même, par rapport à ma propre vie et par rapport à quand même pas mal de personnes que j'ai pu accompagner, quand depuis tout petit, on passe par le raisonnement, particulièrement à l'âge où les autres sont encore dans le pulsionnel et l'instinctif à fond. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'hyperactivité. Les récits de mes parents sont très clairs, quoi. Et jusqu'à l'âge de 3 ans. Et après 3 ans, j'ai réussi à surmonter et je suis devenu un petit garçon sage qui dérangeait pas. J'avais réussi à analyser ce qui dérangeait mes parents et les gens autour de moi. Et quand je suis entré à l'époque à l'école maternelle, j'étais calme et je ne dérangeais pas.
Oui.
Parce que mentalement, j'avais pu analyser les choses. Mais La difficulté, c'est que quand on arrive à brimer, à brider la part émotionnelle, la part pulsionnelle, la part instinctive de moi-même, si j'arrive à l'étouffer pour être entièrement dans le raisonnement, cette partie-là ne mûrit pas. Alors j'allais dire ne grandit pas, mais non, c'est faux. Elle grandit, mais elle grandit à l'état sauvage. Et il y a des moments où les émotions ou les pulsions prennent le dessus, prennent le contrôle de moi, mais ce n'est pas mon moi conscient, c'est mon moi profond. Et les deux ne sont pas reliés. Donc ce qui m'arrive me dépasse totalement. Des fois, j'ai envie d'inventer des théories pour essayer d'expliquer ce que j'ai fait, mais j'y arrive pas. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent nous dire dans des moments comme ça, ouais, mais là, t'es de mauvaise foi. Je ne suis pas de mauvaise foi, je suis dans la panique totale et j'ai besoin d'une théorie pour expliquer ce qui m'est arrivé que moi-même, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes émotions, mon instinct m'ont débordé. Quand je suis sauvage au niveau de la frustration, comme de toutes les émotions, je ne sais pas comment le gérer. Et j'ai besoin d'être accompagné pour petit à petit intégrer toute cette part plus profonde de moi, tout ce que les psychanalystes appellent le ça, et dire oui, ça fait partie de moi, mais ce n'est pas nécessairement à couper de ma conscience. Je peux recevoir mes émotions, les vivre, mais les vivre sainement, sans les imposer aux autres et sans faire des dégâts, et sans me faire des dégâts à moi-même non plus. Je peux reconnaître que quelque chose est frustrant pour moi, sans pour autant me laisser démolir par la frustration. C'est là l'enjeu. C'est particulièrement la frustration induit une colère qui n'a pas nécessairement d'objet clair, si ce n'est moi-même, parce que c'est moi qui ai fait le choix. Et en faisant le choix, en renonçant à d'autres choses, je suis frustré, donc je suis en colère contre moi. Et je vais me faire instinctivement, inconsciemment, mais je vais me faire du mal à moi-même. Ça peut donner des choses assez étonnantes. Ça peut donner, entre autres, certaines des manifestations psychosomatiques, où il y a des vrais troubles physiques qui sont produits par le psychisme, mais pas par le psychisme conscient, par ce qui monte des profondeurs et, entre autres, par des colères contre moi-même que je ne sais pas gérer. J'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a une personne dans les retours qu'on a eus du podcast, un petit peu sur lesquels j'ai travaillé pour préparer ce moment, qui dit, quand je suis face à certains choix, ça me met en PLS. Et j'ai pensé à ça. Parmi les possibilités, bien sûr, il y a le fait d'être paralysé. Il y a des gens qui sont juste paralysés. Ils sont devant les choix et comment faire une hiérarchisation des possibles? Comment dire, peut-être il y a des choses que je garde pour plus tard, il y en a d'autres auxquelles je dois renoncer totalement. Mais voilà, pour le moment, je vais me concentrer là-dessus. Et puis, sur le sujet que je veux aborder, je vais me limiter à telle chose. Je pense à tous ceux, par exemple, qui font des études universitaires. Quand il faut faire un mémoire ou une thèse de doctorat, mais on est capable de faire un sujet tellement bateau qu'il va faire 4000 pages. Parce qu'on voudrait tout traiter autour d'un sujet. Et les directeurs de mémoire ou de thèse vont devoir dire non, non, votre sujet, il faut le recentrer, il faut le resserrer. C'est beaucoup trop, vous n'arriverez pas au bout. Eh bien, face à tout ça, j'ai besoin de vivre mes émotions, mes difficultés. J'ai besoin de vivre pleinement le délice que j'ai à me plonger dans certains sujets dont je ne verrai pas la fin. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris autrefois à Vaux-sur-Seine avec Henri Blocher. C'est quelque chose qui m'est resté toujours. Lui disait, dans la théologie, il y a deux mystères. Il y a le mystère de lumière, c'est Dieu. On peut se plonger toute sa vie dans la réflexion sur Dieu, on comprendra jamais, on n'arrivera jamais au bout, mais c'est que du bonheur. Et puis il y a le mystère opaque, c'est le mystère du mal. On peut se plonger dedans et réfléchir toute sa vie, on peut lire tous les auteurs qui ont écrit dessus, on ne comprendra jamais, mais dès qu'on s'y confronte, ça nous met mal. Il y a des tas de sujets dans lesquels notre étude peut nous mettre vraiment en joie. Quand on pense au surexcitabilité de Dabrowski, Eh bien, si j'ai une surexcitabilité, par exemple, intellectuelle et une surexcitabilité psychomotrice, donc tout ce qui va aller aussi, pas seulement sur le physique, hein, le psychomoteur, c'est par exemple la curiosité, eh ben, je peux vivre du bonheur intense à faire des recherches parce que je suis curieux sur un sujet où j'ai envie d'approfondir intellectuellement, et voilà, et je me régale. Autant que les musiciens vont se régaler avec leur instrument de musique quand ils arrivent à faire quelque chose qui les prend aux tripes. Autant que certains littéraires vont se faire plaisir à déclamer certains vers qui les bouleversent complètement. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement une recherche intellectuelle. Mais dans tous ces cas-là, j'accepte, je vis pleinement ce bonheur et je suis conscient que il y a d'autres émotions beaucoup plus désagréables. Elles sont là aussi et il faut que je les vive. Quand je dis il faut, c'est pas du il faut pas. C'est il est nécessaire que je les vive si je veux pas qu'elles me débordent et qu'elles me pourrissent la vie après. Alors voilà,
Après,
frustration.
il y a ça, et puis après, il y a ceux qui ont du mal à faire un choix parce que le choix qu'ils aimeraient pourrait les faire paraître comme orgueilleux.
Ah. Oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Je l'ai même vu plusieurs fois et je l'ai même ressenti. Il y a plusieurs personnes que j'ai pu accompagner qui me l'ont dit particulièrement et ça m'a frappé parce que ces mêmes personnes voient toujours très très bien leurs faiblesses. Mais pourquoi ça nous rendrait orgueilleux d'avoir des points forts si on est pleinement conscient de nos points faibles? Pourquoi être orgueilleux de bien réussir dans l'étude des langues? C'est mon cas. Voilà, j'ai ce privilège, j'ai de la facilité. Je me suis toujours régalé à travailler dans les textes bibliques en hébreu et grec parce que voilà, j'aime ces langues autres, j'aime découvrir d'autres génies de réflexion et d'expression de la pensée. Mais c'est un vrai bonheur. Je parlais de ce mystère de lumière et du bonheur qu'il y a à la recherche. Moi, quand je me plonge dans ces textes bibliques, je me régale quand je lis certains textes en anglais, en espagnol, en italien, je me fais un vrai bonheur. Simplement, je connais mes faiblesses, je connais mes limites, je ne pense pas être mieux que les autres. Je sais que mes points forts sont des dons que j'ai reçus. Pourquoi est-ce que j'irais dire je mérite d'être considéré parce que j'ai ça? C'est un cadeau que j'ai reçu. Par contre, c'est important de le vivre pleinement, de l'exploiter, de reconnaître le bonheur que ça m'apporte et de reconnaître que j'ai besoin que mon voisin, qui n'est pas fort dans ce domaine mais qui est fort ailleurs, vienne m'aider là où moi je suis faible. C'est une fois qu'on a dépassé avec l'adolescence le besoin d'indépendance, il faut reconnaître que l'humain est dans l'interdépendance. Nous avons besoin les uns des autres. Je pense à tous les développements de l'apôtre Paul sur le corps et les parties complémentaires les unes des autres, et que ce corps doit être bien équilibré, bien coordonné et croître en proportion, ça, en valorisant tout le monde, toutes les parties. Bon, là, c'est pareil. Si je sais valoriser des personnes qui ont une capacité intellectuelle inférieure à la moyenne, parce que ces personnes, elles ont d'autres potentiel. Je me souviens d'une personne qui, moi, m'a énormément aidé et qui a remplacé ma maman, qui malheureusement était décédée avant, mais qui l'a même remplacée, je dirais, en mieux. Et cette personne, intellectuellement, elle ne pouvait pas suivre des grands raisonnements. Mais elle avait une intelligence du cœur qui faisait qu'elle arrivait à discerner, elle voyait tout de suite quand quelqu'un allait mal. Elle arrivait à discerner immédiatement, par exemple, quand deux personnes dans la même pièce, mais assises à des endroits très éloignés l'un de l'autre, ces deux personnes étaient attirées l'une par l'autre, elle le sentait tout de suite. Elle savait repérer un petit coup d'œil, un petit sourire, et paf, c'était une évidence pour elle, il n'y avait pas besoin de réfléchir. Cette personne, elle m'a énormément aidé. Elle m'a fait un bien fou, elle m'a consolé quand j'avais besoin, avec son intelligence du cœur. Est-ce que je peux admettre que moi, je suis un intello Tous les HPI ne sont pas nécessairement intello. Hein. Il y en a qui ont des potentiels avec une intelligence qui est beaucoup plus appliquée, beaucoup plus manuelle. Voilà. Moi, je suis un théoricien, je l'assume, c'est comme ça. Et il y a d'autres personnes qui m'apportent beaucoup de joie, de bonheur et de bien-être parce qu'ils viennent compléter mes manques. Donc, l'orgueil, ça serait plutôt de croire que tout le monde me regarde le nombril. Et que tout le monde va juger le choix que j'ai fait. Mais en fait, les autres, la plupart du temps, ils sont pas si attentifs que ça à mes choix. Ils vivent leur vie, ils ont leurs propres choix à faire, ils ont leurs propres difficultés. Il est là l'orgueil.
Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette pression sur la qui vient de la responsabilité d'être quelqu'un à qui Dieu a beaucoup confié? Et donc, est-ce que parfois on ne se pose pas la question d'accepter de faire tout ce qu'on pourrait faire parce que on doit bien faire quelque chose avec ses talents?
Ah, bah, avec les talents, on peut faire le lien. Alors, c'est un jeu de mots, bien sûr, puisqu'il s'agit pas de talent dans la Bible, dans l'Évangile. Il s'agit de, le mot talent désigne des pièces de monnaie. Quand Jésus utilise la parabole des talents dans Matthieu 25, il nous parle du fait d'utiliser les talents qui nous ont été confiés pour les faire fructifier, ou au contraire, de les enterrer en n'en faisant rien parce qu'on a peur du résultat. La peur, elle est toujours mauvaise conseillère dans des sujets comme ça. Entendons-nous, la peur, elle est nécessaire, elle est naturelle. Face à un danger, la peur, c'est ce qui va me permettre de prendre la fuite quand c'est nécessaire. Donc j'en ai besoin. Mais dans d'autres sujets, il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, il y a, alors là, dans Luc 12, cette idée, et je l'ai vue à plusieurs endroits, y compris dans les retours du podcast. Ces personnes qui ont peur d'être jugées beaucoup plus sévèrement parce qu'on nous a beaucoup confié. Mais ce que je disais tout à l'heure, ça s'applique ici aussi. Dieu nous a peut-être beaucoup confié dans un domaine, et puis il y a d'autres domaines où il nous a confié beaucoup moins. Si ça relève toujours des talents, dans les choix que j'ai à faire, je vais m'investir sur mes points forts, parce que Dieu m'a accordé certaines capacités, certains dons pour que je les utilise. Par contre, dans cette parabole même, le sujet véritable, c'est est-ce que je me tiens prêt à rendre des comptes? Là, dans la parabole de Jésus, c'est un homme qui est parti et qui revient, un maître qui revient et qui dit à ses serviteurs, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Et est-ce que vous êtes prêt pour moi? Est-ce que j'arrive à la maison? Est-ce que je vais trouver à manger? Dans cette idée-là, c'est vraiment la pointe de la parabole de Jésus. La question du jugement, elle est pour ceux qui se sont mis en retrait, qui n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Et en plus, il me semble quand même. Alors, je vais associer quelque chose, parce que avec ce côté, on sera jugé plus parce qu'on nous a confié plus. Il y a aussi l'épître de Jacques qui dit, soyez pas trop nombreux à vouloir enseigner, parce que là aussi, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et si je sais plus de choses que la moyenne, très logiquement, je risque de me retrouver en position pour enseigner les autres. Mais dans un cas comme les autres, dans un cas comme dans l'autre, pardon, le problème n'est pas au niveau des responsabilités que je prends et n'est pas au niveau de mes capacités, parce que ce sur quoi je vais compter, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce, elle est le cœur de tout. Du moment que je compte sur le fait que même David, qui a fait quand même des choses atroces dans sa vie, plusieurs fois, il n'y a pas que la femme d'Uri, il a aussi assassiné certaines personnes, il s'est montré totalement irrespectueux dans ce qui n'était pas encore le temple, ce qui était la tente, et il n'a pas tenu compte de ce qui était consacré à Dieu, il l'a pris pour lui, enfin, il a fait beaucoup de bêtises. Et la Bible nous dit c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et chaque fois qu'il était confronté à un risque de jugement, il nous dit particulièrement dans les psaumes, qui se réfugie dans la miséricorde de Dieu, qui compte sur la miséricorde de Dieu. Et si je vais plus loin, et si je me dis, le fils de David, Jésus, le Christ, si vraiment il a tout accompli pour que je sois pardonné et que je sois réconcilié avec Dieu, j'ai plus à craindre aucun jugement. Il n'y a pas de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fini, j'ai plus à avoir peur d'être jugé. Je suis un être imparfait, en cheminement, en progression, et j'utilise, dans la mesure de ce que j'arrive à faire, j'utilise mes talents pour le bien des autres. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle en réalité. C'est le aimez-vous les uns les autres, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, le cœur de tout ça, c'est la grâce de Dieu d'un côté, et c'est son amour pour nous, notre amour pour lui, mais qui se manifeste par notre amour pour les autres, dans l'Église comme en dehors de l'Église. Et là, il n'y a plus aucune peur à avoir.
N'ayez pas peur.
Ouais, Jésus l'a dit bien des fois, il y en a d'autres qui l'ont repris après lui.
Effectivement. 365 fois dans la Bible, je crois.
Il me semble bien, il me semble bien avoir déjà entendu ça, qu'il y avait une fois par jour, n'ayez pas peur.
Très bien. Eh bien, encore merci d'avoir fait le choix de nous écouter jusqu'au bout. Comme Régis l'a recité, n'ayez pas peur pour la suite. Donnez-nous de vos nouvelles. Posez-nous vos nouvelles questions. On sera très content avec Régis et les autres de pouvoir aborder les sujets qui vous touchent et qui comptent pour vous. À bientôt, les amis.
À bientôt David, à bientôt tout le monde.